À voix nue, Caroline Brouet, cette semaine avec
Bruno David, biologiste et paléontologue et par ailleurs ancien président du Muséum National d'Histoire Naturelle.
Cinquième épisode, à la tête du Muséum National d'Histoire Naturelle. Bonjour, bonsoir Bruno David.
Bonjour, bonsoir Caroline.
Aujourd'hui, nous allons parler pour cette dernière de la série de ces 2922 jours que vous avez passés comme président du Muséum National d'Histoire Naturelle. C'est pas moi qui ai compté, hein. C'est vous. Oui. Une petite manie qui est de compter.
Voilà.
J'ai une mémoire. Vous aimez beaucoup
chiffres.
Les chiffres.
Non, c'est pas que je les aime, c'est que c'est pas de ma faute. Je suis câblé comme ça. Je me rappelle d'un grand nombre de numéros de téléphone. Alors un peu moins maintenant, parce qu'avec les nouveaux téléphones, c'est automatique. Et je me rappelle du numéro d'immatriculation de ma première voiture qui était une 2 chevaux pendant les années 70, qui était immatriculée 1040 CP69.
D'accord. Donc là, bon, c'est pas forcément que vous vous en rappelez, le nombre de jours que vous avez passé comme président du muséum, c'est quand même vous qui les avez comptés, là.
Oui,
c'est
pas de la mémoire, hein. Je les ai comptés, c'était pas de la mémoire, non.
Quel est le plus beau jour? C'était le premier, au milieu, à la fin?
C'est difficile à dire, il y a eu beaucoup de beaux jours d'abord. Sur ces 2922 jours, il y a eu énormément de belles journées. C'est sûr que le premier jour, c'est un peu magique. C'est un jour où on est fier, je pense. J'ai eu une certaine fierté à être quand même nommé à la tête de cet établissement bientôt quadricentenaire. Il a 397 ans, pour parler de chiffres encore, cette année. Il a été.
On est en 2023.
Oui, il a été. Le décret de Louis XIII date de 1626, le premier décret. Donc, on est quand même fier de se retrouver là. Il y a une forme d'humilité aussi. Parce qu'on pense à tous les gens qui nous ont précédés, à tous les grands noms qui ont précédé, et on se sent humble par rapport à tout ça, à Buffon, à Cuvier, à Lamarck, à Chevreul et à bien d'autres. Et puis, il y a une forme d'inquiétude. Est-ce que je vais y arriver? Et je me souviens très bien, en train de traverser le Jardin des Plantes, alors c'était un peu avant le 1er septembre 2015, mais je savais que j'étais nommé. Et je viens au Jardin des Plantes, je traverse le Jardin des Plantes et je me dis, mais je vais être responsable de tout ça quand même. C'est un peu écrasant. Surtout qu'il y avait eu une réforme des statuts peu avant et qu'auparavant, le muséum était piloté de manière bicéphale par un président scientifique qui n'avait aucun pouvoir et un directeur général non scientifique qui, lui, avait tous les pouvoirs entre les mains, notamment les pouvoirs budgétaires de choix des expositions, enfin qui avait vraiment tous les pouvoirs. Les statuts ont changé, on a fusionné ces deux postes en un seul.
Le président et directeur.
Je suis en position, général. Ça s'appelle président, mais je suis en posture de PDG, en président exécutif. Et les statuts disent que je préside et dirige l'établissement. C'est écrit noir sur blanc dans les statuts. Donc ça fait une responsabilité importante. C'est la première fois que ça arrivait depuis pas mal d'années. Et j'avais conscience de cette responsabilité. Et c'est un petit peu écrasant, d'autant que j'ai un collègue que j'ai croisé dans le Jardin des Plantes, que je connaissais depuis longtemps, et qui me dit « Mais si jamais tu te plantes, alors là, il n'y aura plus jamais de scientifique à la tête du muséum. » J'en avais déjà conscience, mais là, il me l'a bien formulé, et donc ça m'a bien mis la pression, c'était absolument parfait.
Et puis le muséum, c'est 2500 personnes, 600 chercheurs?
Oui, c'est ça, c'est à peu près
beau,
2600
hein,
personnes qui vivent sur les sites du muséum. Il y a beaucoup de sites au muséum, il y a bien sûr le site historique du Jardin des Plantes.
Mais
où nous sommes, il y a le musée de l'Homme au Trocadéro, en face de la Tour Eiffel, il y a le parc zoologique de Paris que tout le monde appelle Zoo de Vincennes, mais ça fait partie du muséum. Il y a 2 stations marines en Bretagne, il y a une grande réserve animalière dans l'Indre, il y a un arboretum Versailles-Chèvreloup, de 200 hectares à côté de Versailles. On a un site à Brunois, dans l'Essonne. On a un abri préhistorique en Dordogne. On a un jardin exotique à Menton. On a l'Armas de Fabre, un entomologiste dans le Vaucluse. Enfin, il y a 13 sites du muséum autour de la France. Tout ça, ça fait beaucoup de monde, ça fait beaucoup de métiers. Il y a des jardiniers, il y a des soigneurs, il y a des vétérinaires, il y a des gardiens, il y a des scénographes, il y a des spécialistes des expositions. Il y a évidemment toute l'administration, toute la logistique qui va derrière. Et il y a 500 ou 600 chercheurs et enseignants-chercheurs dans le muséum. Qui fait qu'on est le premier musée au monde d'histoire naturelle en termes de recherche. On produit à peu près entre 1200 et 1500 articles scientifiques par an. C'est une posture assez exceptionnelle, assez extraordinaire, qui est permise par le système français, qui fait qu'on héberge et qu'on accueille des chercheurs du CNRS, de l'INSERM, de l'IRD, de l'EPHE et d'autres établissements de recherche.
Le tout sous la double tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et du ministère de la Transition écologique.
Exactement, et on est sous cette double tutelle, et curieusement, on n'est pas sous la tutelle du ministère de la Culture. Et au cours de ces 8 années, un de mes travaux essentiels, ça a été aussi de se rapprocher de la culture. Alors non pas pour qu'on passe sous la tutelle de la culture aussi, parce que 3 tutelles, ça serait difficilement gérable, déjà 2, c'est parfois compliqué, mais vraiment pour qu'on ait des relations étroites avec la culture, et ça a bien marché. On est maintenant très intégrés dans les réseaux culturels, on en fait partie, par exemple, du réseau des Microfolies qui a été mis en place par Didier Fusilier quand il était encore à la Villette, juste avant qu'il parte à la réunion des musées nationaux, à la RMN, qui est une nomination très récente, là. Et donc, on est vraiment très impliqué par la culture et on a des liens très étroits maintenant avec le ministère de la Culture.
Alors, vous disiez, Bruno David, qu'il vous arrivait, dans le Jardin des Plantes, de croiser tel ou tel collègue. De fait, la maison mère, le bâtiment qui est le siège, qui abrite le siège du muséum, est dans le Jardin des Plantes à Paris et nous y sommes. Alors, j'aimerais profiter de ce moment où nous sommes avec vous, dans votre bureau, qui plus est, pour que vous nous présentiez les choses. En particulier, qu'on commence par la pièce où nous sommes. Très belle pièce. On est assis, donc le parquet ne grince pas encore, mais comme on va se lever bientôt, on va entendre le parquet grincer, parce que c'est un parquet du XVIIe siècle. Où sommes-nous dans ce bureau qui est le vôtre, de président encore pour quelques heures?
Alors, nous sommes dans un hôtel particulier qui s'appelle l'Hôtel de Magny, qui a été construit à la toute fin du XVIIe siècle, sous Louis XIV, qui était occupé par un aristocrate qui avait un parc autour de cet hôtel. Et cet hôtel et son parc est entré dans le giron du Jardin des Plantes sous Buffon. Un peu plus tard, Buffon devient intendant du Jardin du Roi, puisque c'était le Jardin du Roi à l'époque. En 1738, il va rester 49 ans à la tête du muséum. Alors, moi, je vais rester 8 ans. Je serais resté 8 ans ce soir. Donc, on voit déjà que 8 ans, c'est long. Mais lui, il est resté 49 ans à la tête de l'établissement. Il a beaucoup agrandi le Jardin des Plantes. Et il a fait l'acquisition, notamment, de cet hôtel particulier construit sous Louis XIV. Pas très bien adapté pour installer une administration centrale, mais qui a un charme absolument fabuleux, juste incroyable.
Votre bureau, il faut bien le dire à nos auditeurs, nos auditrices qui ne le connaissent pas, qui ne le voient pas, est un bureau magnifique. Alors, très haut de plafond, oui. Avec des moulures, avec des tapisseries, et avec surtout cette vue extraordinaire sur tout le jardin. On est entouré d'arbres, on est entouré de verdure. C'est très apaisant. Puis il y a des choses à l'intérieur aussi de votre bureau. Il y a des objets, il y a des tableaux. Devant moi, derrière vous, par exemple, Bruno David, un pélican, c'est un pélican?
Oui, c'est un pélican, c'est un bronze.
Enfin, c'est un vrai pélican, hein,
c'est
bronze.
Oui, c'est un faux pélican. C'est un pélican en bronze, c'est une sculpture de François Pompon, donc sculpteur animalier de la première moitié du XXe siècle. Et François Pompon est natif de Bourgogne, et je viens, même si je ne suis pas natif de Bourgogne, je viens de Bourgogne, c'est là où j'ai passé l'essentiel de ma vie. Donc il y avait une forme de clin d'œil, et toutes les sculptures de François Pompon sont au muséum, enfin beaucoup de ces sculptures sont au muséum, et en particulier une importante collection de bronze. Et quand je suis arrivé, le service des collections du muséum et de la documentation et des bibliothèques m'a proposé un certain nombre d'objets d'art à mettre dans mon bureau. Et j'ai choisi un bronze de Pompon en forme de clin d'œil, en quelque sorte.
À côté de lui, presque à côté, on va dire, parce que le pélican de Pompon, il est sur la cheminée, mais à côté de lui, il y a un drôle de petit animal qu'on connaît maintenant par un dessin animé fameux. C'est un paresseux.
C'est un paresseux.
C'est un paresseux empaillé.
C'est un paresseux empaillé, oui. C'est un petit paresseux à 3 doigts, tridactyle, qui m'a été confié par l'ancienne directrice des galeries, qui a quitté le muséum au moment où je suis arrivé. Alors, on se connaissait un peu avant, et puis... Elle craignait que ce ne soit pas moi qui soit président du muséum, et elle s'est mise en détachement pour aller travailler à l'IRD et pour partir dans un pays qui l'attirait beaucoup, qui est Madagascar. Et juste avant de partir, elle me dit « Bon, voilà, écoute, je te confie ce paresseux, je le mets en garde. »
Donc là, il était... C'est pas pour dire que vous êtes un paresseux ?
J'espère pas. Enfin, je l'ai pas perçu comme ça, en tout cas. Et normalement, il est sur la cheminée, mais là, je l'ai sorti de la cheminée, je l'ai posé sur le bureau, parce que ce soir, je vais rencontrer notamment le directeur des collections. On va faire une petite réunion entre nous, au niveau du comité de direction du muséum. On va se retrouver une quinzaine. Et j'ai prévu de rendre ce paresseux aux collections. Donc, il va quitter ce bureau. Il va retourner dans les collections du muséum.
Alors, il y en a un, Bruno David, qui ne va pas partir de si tôt. Enfin, on espère pour lui. Parce qu'il est dehors. Déjà, il est dehors depuis un sacré bout de temps. C'est un arbre que vous voyez, j'ai presque envie de le mettre au présent, mais presque au passé, avec un « i » en plus, depuis votre bureau. C'est un platane. Vous voulez bien qu'on se lève pour aller voir que vous me parliez de cet arbre?
Bien sûr.
Pourquoi je dis qu'il ne va pas bouger de si tôt?
Je vais vous parler de ce platane.
Bon, on va y aller alors.
—
Ah oui, alors on est vraiment en face. En face de ce platane. Il est énorme, hein.
On ne peut pas être mieux placé, c'est un énorme platane, alors donc c'est un Platanus orientalis, platane d'Orient. Il faut savoir qu'il y a deux espèces de platanes principales, le platane d'Orient et le platane d'Occident, que la plupart des platanes qu'on a sur les places de nos villages, dans le milieu de la France ou le long des routes, mais qu'il y en ait de moins en moins le long des routes, ou les platanes de l'alignement de la grande perspective qui est face à la galerie de l'évolution, qui va de la Seine à la galerie de l'évolution, sont des hybrides entre orientalis et occidentalis, et ils sont plus fragiles que les espèces pures, que les espèces d'origine. En plus, ils sont taillés, ce qui les fragilise encore. Celui-ci est un spécimen qui n'a jamais été taillé, qui a été planté en 1785 par Buffon. Alors, il était sans doute petit en 1785, mais il a peut-être une dizaine d'années, donc on peut calculer l'âge qu'il a. C'est un platane qui a plus de 200 ans et même qui se rapproche sans doute des 250 ans.
C'est un sage.
Qui est un sujet absolument magnifique et j'en ai fait des photos à peu près à toutes les saisons. En hiver, il est très beau. En automne, il est beau. Au printemps, il est beau. Quand il y a un ciel d'orage derrière, il est encore plus magnifique. Enfin, c'est vraiment un bonheur d'avoir eu ce platane sous mes fenêtres pendant 2921 jours et quelques.
Quelques heures. Dites-moi, Bruno David, puisque vous nous racontiez un peu de l'histoire de ce bâtiment qui a presque 400 ans, et puisqu'on est debout, est-ce qu'on n'en profiterait pas pour sortir de votre bureau et aller juste flâner dans les couloirs, sans déranger vos collègues, bien sûr, mais parce qu'il y a quand même des petites curiosités dans le couloir.
Il y a des décorations, il y a des choses comme ça, qui ne sont pas toutes des décorations originales. Il y en a certains qui sont des originaux, en effet, oui. Et puis on va faire grincer les parquets, ces parquets versaillais... qui sont vénérables.
Absolument. Et puis il y a notamment un buste de Buffon.
Dans l'escalier,
il y a un portrait de Cuvier aussi.
Et d'un des Jussieu, je crois que c'est Antoine de Jussieu.
Absolument. Bon, on y va alors. Hein. Au départ, ce jardin-là, dans lequel nous sommes, le jardin des plantes, c'était un jardin médicinal, ou je me trompe?
Oui, au moment de la création du jardin par Louis XIII, c'est vraiment un jardin de plantes médicinales qui est créé. Louis XIII, d'ailleurs, comme Richelieu, étaient des gens qui étaient assez régulièrement malades. En français, on dit valétudinaires, pour utiliser un mot un peu compliqué. Et ils avaient besoin, finalement, d'un droguier. Et le premier bâtiment du jardin était un droguier du roi, avec les plantes médicinales qui étaient associées à ça. Et ça a démarré comme ça, puis après c'est devenu le jardin du roi, avec un intendant qui était à la tête du jardin royal. Et quand Buffon arrive en 1738, il est intendant du jardin du roi. Évidemment, à la Révolution, il n'y a plus de jardin du roi. Et en 1793, cela devient le muséum d'histoire naturelle. Il n'est pas encore national, il est muséum d'histoire naturelle, avec des statues extraordinaires pour l'époque, qui étaient vraiment de mettre la connaissance au service du grand public, de manière gratuite. C'était vraiment... Je respecte beaucoup ces statues de 1793 parce qu'ils sont vraiment assez exceptionnels.
C'est ces statues qui en ont fait un centre de recherche et d'enseignement ou ça a été encore progressif après ?
Dès ces statues, c'était un centre de recherche et d'enseignement avec des grandes figures et c'est vraiment intéressant. Et il devient national en 1908 au moment des nationalismes qui s'exacerbent en Europe. Donc ça devient le Muséum national d'histoire naturelle à ce moment-là. Mais c'est une très longue histoire, bien sûr.
Ce qui ne lui empêche pas d'avoir une activité international également. Mais tel n'est pas le propos, Bruno David, puisque nous sommes sortis de votre bureau, nous trouvons dans le couloir qui sert peut-être de boudoir, d'antichambre à votre bureau, et pour les visiteurs qui viennent vous voir, les chaises sont disposées face à un tableau qui représente un chien suivant un faisan.
Alors c'est un chien d'arrêt, c'est un chien de chasse, c'est un tableau de Jean-Baptiste Oudry qui était le peintre des chasses de Louis XV. C'est un tableau de 1742, c'est un original. Et on a un chien de chasse, alors je ne saurais pas dire quelle race, je ne suis pas vraiment spécialiste des chiens de chasse, qui est en arrêt devant une perdrix.
Ah bah c'est une perdrix, c'est pas un faisan. On continue si vous le voulez bien, parce que dans le couloir un peu plus loin, il y a quelques tableaux naturalistes, je voudrais que vous nous en... présenter, on entend le parquet qui grince, hein, effectivement. Je voudrais que vous nous en présentiez quelques-uns. Alors, il y a un dessin de magot, un singe qui a l'air de se regarder dans un miroir. Alors,
ce ne sont pas des originaux, hein, parce que ça correspond à des vélins du muséum. Donc, ce sont des peintures qui étaient faites sur des peaux de veaux mort-nés. Les plus anciens datent de Louis XIV. Hein. C'est assez exceptionnel, d'ailleurs, comme réalisation, parce que le peintre n'a pas droit à des repentirs, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de retouches. Donc il faut une peinture d'une qualité assez exceptionnelle. Vous voyez, celle-ci a été faite par Nicolas Maréchal, qui a vécu entre 1753 et 1802, et qui représente ce singe magot. C'était une façon de décrire la vie, la biodiversité, et au-delà de ça, parce qu'il y a quelques minéraux également qui sont représentés, et on a une collection absolument fabuleuse de 7000 vélins au muséum, qui traversent des siècles, parce que les plus anciens sont du 17e, et les plus récents sont du 20e siècle, et même du début 21e.
On dit d'ailleurs que le muséum contient 68 millions de spécimens dans les collections.
Oui, ça, c'est la taille des collections, c'est le nombre de spécimens qui sont présents dans les collections naturalistes du muséum. C'est à peu près 68 millions de spécimens. J'aime bien dire que ça fait un spécimen par Français. Selon la place que vous avez chez vous, vous pouvez hériter d'un petit insecte ou d'un squelette complet de baleine. C'est assez plus gros. Mais ça correspond à des plantes, des minéraux, des météorites, des insectes, des mammifères, des oiseaux, des poissons, des oursins, bien sûr, des étoiles de mer, etc.
D'ailleurs, je suis surprise parce que dans ce couloir, il y a des fleurs, il y a un homard, il y a quelques espèces de coquilles fossiles, mais il n'y a pas d'oursin. Vous n'avez pas voulu mettre un oursin ?
Non, j'ai pas tenu spécialement à afficher les oursins dans ce couloir. Je trouve que la décoration est très belle comme ça. Ce sont des reproductions de vélins du muséum de différentes époques. Il y en a qui sont du 19e siècle, il y en a qui sont plus anciens.
Voilà, on va retourner dans votre bureau, mais quand on va y retourner, vous allez nous raconter ce qu'est le muséum et quel est son rôle aussi, bien entendu, Brian David. Alors nous voilà de retour, assis, calmement, bien posés dans votre bureau, Bruno David. Je voudrais qu'on parle de ce muséum et évidemment de ce que vous y avez fait pendant 8 ans. Mais avant de parler de votre action et de votre bilan, vous insistiez sur le centre de recherche scientifique, bien sûr. On a bien compris que ce muséum, ça n'est pas seulement des squelettes fascinants de dinosaures et la luxuriance végétale des grandes serres, c'est bien plus que cela. C'est un conservatoire de la biodiversité du patrimoine, c'est un lieu d'exposition, c'est un espace de collection. C'est aussi un lieu engagé.
Oui, ça fait vraiment partie de ce que j'ai souhaité faire là. Parle déjà de ce que je souhaite faire au muséum. Ce que j'ai fait au muséum, c'est j'ai voulu un muséum engagé et responsable. Mais avant de parler de ça, ce que je souhaiterais, c'est essayer de vous faire vraiment comprendre ce qu'est un muséum et ce qu'est le Muséum national d'histoire naturelle. Le muséum, il est centré sur des collections. On en a parlé, 68 millions de spécimens dans les collections naturalistes. Sa vocation, c'est d'archiver un patrimoine universel qui est celui de la biodiversité et de la géodiversité, pour faire simple, et aussi des relations entre l'homme et ses environnements. C'est de la recherche et c'est de la diffusion auprès du public. Et je vais prendre un exemple simple que j'adore prendre. Si je pose sur ce bureau un caillou assez moche, noirâtre, et que je vous dise, voilà, que pensez-vous de ce caillou ? Vous n'allez rien en penser, et vous allez même me dire, ce caillou, si je l'avais croisé sur mon chemin, je ne l'aurais même pas ramassé tellement il est moche. Et pourtant, il est dans les collections du muséum. Il fait partie des collections. Et il nous intéresse parce que les chercheurs du muséum vont éclairer ce qu'est cet objet. Et ils vont nous dire, mais ce caillou, c'était une météorite. Et c'était une météorite qu'on appelle techniquement une chondrite carbonée. Et cette chondrite carbonée, que vous pouvez avoir dans la main, elle est plus ancienne que la Terre, parce qu'elle date de la proto-nébuleuse planétaire, avant la formation même, au moment de la formation du système solaire. Et elle a des inclusions à l'intérieur qui sont plus anciennes que le Soleil. Donc c'est une sorte de mise en abîme, et vous pouvez avoir dans la main, et j'ai eu à pas mal de reprises dans la main, cet objet plus ancien que la Terre, et même pour certaines de ses particules, de ses composants, plus ancien que le Soleil. Donc c'est assez vertigineux. Et quand je fais ça, je vous diffuse de la connaissance. Donc vous voyez très bien le triangle entre la collection, la recherche, la diffusion des connaissances. Et c'est ça un muséum. Et c'est comme ça que j'ai compris ce qu'était un muséum. Et c'est vraiment cette idée de muséum que j'ai souhaité mettre en avant avec toute l'énergie dont je disposais.
Donc lieu de connaissance, de diffusion de la connaissance, donc de pédagogie. Vous disiez que vous avez voulu, que vous avez eu à cœur même, d'en faire un lieu responsable et engagé. De quelle manière ?
Oui, parce que le muséum, si vous voulez, je peux dissocier trois axes dans un projet pour le muséum. Il y a un muséum de connaissance, on construit de la connaissance, c'est un petit peu ce que je viens de vous raconter. Il y a un muséum tourné vers ses publics, de diffusion de cette connaissance vers les publics. Ça, le muséum le fait depuis des décennies, des siècles. Mais dans le moment actuel, sous ce moment de crise environnementale, je pense que le muséum doit faire ce que j'appelle un muséum engagé et responsable, c'est-à-dire prendre la parole dans la société. Ça ne veut pas dire pour autant que le muséum doit être prescripteur. Le muséum n'est pas là pour prescrire ce que doivent faire les citoyens, les entreprises ou les hommes politiques. Mais il doit donner le cadre. Il doit donner un cadre de réflexion. C'est ça, s'engager dans la société, c'est s'engager médiatiquement, c'est s'engager à travers des expositions, peut-être plus engagées que celles qu'on aurait pu faire auparavant, c'est s'engager à travers des podcasts, c'est s'engager à travers des ouvrages, comme ceux que j'ai pu écrire, ou que d'autres chercheurs du muséum écrivent, bien sûr, mais c'est être présent dans la société, c'est porter la voix de la rationalité et de la connaissance rationnelle auprès du plus grand nombre, et de manière à ce que cette voix soit la mieux entendue possible. Ce qui n'a peut-être pas été suffisamment fait par le passé, peut-être parce que le muséum ne parlait pas suffisamment, et qu'en tout cas, il n'était pas suffisamment entendu ou écouté, même s'il parlait.
Parce que vous pensez que la curiosité, l'observation du monde vivant, sa compréhension, sont des antidotes à la désinformation et à l'ignorance. Vous parliez de l'ignorance ou de l'amnésie dans une des émissions précédentes. Dans la première émission, vous nous avez dit qu'on avait perdu la curiosité.
Oui, la curiosité est une qualité essentielle pour moi. On doit rester curieux. Et l'histoire naturelle, elle offre un énorme avantage, c'est que c'est une discipline d'observation. Quand vous regardez une plante, un insecte, un minéral, elle apprend à respecter les faits. Là, juste derrière vous, il y a le magnolia qui est sous ma fenêtre, il a des feuilles qui sont vertes, qui ont une certaine forme. Si on les observe, bon, la feuille a cette forme-là, elle a cette couleur-là, c'est un fait. Et pratiquer l'observation vous apprend aussi à respecter les faits, et je pense que ça permet de forger aussi, dans la société actuelle, des citoyens plus responsables et plus résistants par rapport à ce que d'aucuns appellent des faits alternatifs, moi ce que j'aurais tendance à appeler des mensonges, hein, tout simplement. Et donc ça forge une éthique intellectuelle. Et je trouve que la pratique de l'histoire naturelle, on doit aussi la développer dans la société pour cette raison-là, pour apprendre aux enfants à observer, à respecter ce qui n'est pas une opinion, ce qui est simplement une observation factuelle et qui s'impose et qui devrait s'imposer à tous. C'est valable pour le changement climatique et son réchauffement, pour l'érosion de la biodiversité, donc pour des choses plus complexes que simplement la forme d'une feuille de magnolia, mais c'est le même principe.
Bruno David, nous sommes le 31 août 2023. C'est-à-dire que nous sommes au 2922e jour de votre présence ici au Muséum National d'Histoire Naturelle. Vous vous apprêtez à quitter votre poste ce soir, vous regardez votre montre, vous allez me dire bientôt combien d'heures il vous reste.
Exactement.
Ici, c'est ça ?
Il me reste 12 heures et 2 minutes.
Vous êtes serein ou vous êtes inquiet, vous êtes anxieux, vous êtes nerveux ?
Alors, pas du tout, je suis très serein parce que c'était quelque chose qui était prévisible. Je savais que mon mandat allait se terminer aujourd'hui.
Toutes les bonnes choses ont une
fin. Voilà. Donc, je suis très serein par rapport à ça. En même temps, non, ce n'est pas une inquiétude du tout, mais c'est un sentiment un peu étrange de se dire, bah oui, c'est quand même 8 années de vie, une page qui se tourne, de vie très intense. Hein. C'est quand même un travail que j'ai pris vraiment à cœur. Donc, je pense que j'ai occupé la fonction avec beaucoup d'intensité. J'y ai passé un nombre d'heures incalculable. Je n'ai jamais compté mes heures. Ça a été un travail assez énorme. J'ai dépensé beaucoup d'énergie là-dedans. Bon, et ça se termine, c'est bien que ça se termine aussi, donc d'où cette sérénité, puis en même temps, une forme de curiosité sur comment finalement tout ça va se terminer aussi, restons curieux pour ça aussi.
Est-ce que vous savez ce que vous allez faire demain ?
Alors demain, je prends le train demain matin pour revenir à Dijon. Je vais croiser mes petits-enfants demain après-midi, très rapidement, parce qu'ils vont repartir pour la rentrée scolaire en région lyonnaise. Et puis, dimanche matin, de bonne heure, je vais partir en Bretagne pour une dizaine de jours, pour marquer une forme de césure. Parce que ça fait un sentiment bizarre, quand même. Hein. Il y a une sorte de bizarrerie à se dire, bon, j'ai passé 8 ans dans ce bureau, dans cette maison, même si ce n'est pas toute ma vie. Hein. J'ai passé beaucoup de temps au CNRS auparavant, donc ce n'est pas la première page que je tourne. Mais c'est quand même une page qui a été très dense, très enthousiasmante, gratifiante, épuisante. Enfin, on peut mettre toute une série d'adjectifs derrière. Hein. C'était parfois très fatigant, très épuisant, mais en même temps tellement extraordinaire que j'ai des étoiles qui brillent dans les yeux, je pense.
Oui, d'ailleurs, vos yeux brillent quand vous en parlez. Qu'est-ce qui va vous manquer le plus, Bruno David ?
Je ne sais pas si ça va vraiment me manquer. Je pourrais vous le dire d'ici 15 jours ou 3 semaines. C'est peut-être de ne plus du tout être aux manettes et de voir aussi que l'établissement continue, ce qui est une très bonne chose. Hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est une mauvaise chose, c'est une très bonne chose, mais il faut l'accepter, il faut passer au-dessus de ça. Et puis, pour tout vous avouer, j'aime bien être chef. Sinon, je ne serais pas devenu directeur de laboratoire et puis président du muséum ou président du conseil scientifique du muséum pendant 6 ans avant de présider l'établissement lui-même. Donc c'est pas, je pense pas être un dictateur non plus, mais j'ai un certain goût à faire les choses, donc par conséquent à diriger. Sinon je me serais jamais présenté. Donc voilà, ça va peut-être me manquer parce que je vais me trouver en situation de retraite, même si c'est une retraite active. Et puis on verra bien. Et invitez-moi pour à voix nue dans 10 ans et je vous dirai dans une
allez,
sixième émission.
Allez, je prends l'invitation. On le fera. Vous aimez parler en public, on l'entend. Vous aimez vous mettre en scène.
Je suis très cabot.
Vous aimez écrire des livres, parler à la radio, donner des conférences. Vous aimez raconter des histoires, vous nous le disiez. Vous avez des petits-enfants, vous aimez leur raconter des histoires, leur transmettre cette passion que vous avez pour l'observation des choses naturelles.
Ah oui, je passe du temps à ça. Alors, notamment avec ma petite-fille qui est la plus âgée, enfin l'aînée des petits-enfants, qui va avoir 6 ans à la fin du mois d'octobre. Et dès qu'elle a été en âge de comprendre, vers 3 ans, 3 ans et demi, je lui ai montré des tas de choses microscopiques. Je me souviens très bien, un peu après le confinement, donc elle était vraiment toute petite, elle avait à peine 3 ans, lui montrer, avec une loupe, la magie de ce qu'est une petite fleur, où sont les étamines, où est le pistil, et en lui disant, regarde, les gens autour de nous, ils s'arrêtent même pas, ils voient même pas qu'il y a ces petites fleurs, regarde à quel point elles sont belles. Je suis allé acheter un petit marteau dans un magasin de bricolage. J'ai aiguisé le bout du marteau de façon à ce que ça fasse une sorte de petite lame. Alors je faisais attention à elle en même temps, mais elle avait 4 ans à peu près. Puis on sort en forêt, on gratte un peu la mousse. Qu'est-ce qu'on trouve sous la mousse qu'on a gratté avec son marteau? Là aussi on a une loupe, on trouve des tout petits escargots. Il y en a certains qui sont poilus, il y en a certains qui sont aplatis, il y en a certains qui ont des formes d'obus. Personne ne sait que cette diversité de petits escargots existe dans une forêt parce qu'on regarde que les grosses choses. Et je lui fais découvrir ça parce qu'un enfant, ça adore regarder les tout petits détails. Je lui fais découvrir des petits insectes, je lui fais découvrir des tas de petites choses comme ça. Donc je lui montre à quel point le monde qui l'entoure est merveilleux. Cet été, on a passé une semaine ensemble dans les Alpes. Je lui ai expliqué ce que c'était que les micaschistes, ce que c'était qu'un certain nombre de roches un peu bizarres. On a traversé un petit massif qui était des carnioles, qui sont des roches très bizarres, un peu caverneuses. Je lui ai expliqué ça. Je lui ai expliqué la formation des chaînes de montagne en froissant des serviettes de salle de bain. Hein, donc, pour montrer ce qu'était la tectonique des plaques, comment ça marchait, comment ça pouvait faire des plissements. Je lui ai montré les plissements dans la montagne. Et elle est complètement fascinée, quoi. Ça l'intéresse.
Vous retrouvez en elle, peut-être, le petit enfant, le petit garçon que vous étiez quand votre propre père, naturaliste, vous montrait, vous expliquait les choses qui vous entouraient d'une certaine façon.
Par certains égards, oui, mais je pense que j'en fais même encore un peu plus, et peut-être même un peu trop parfois, je ne sais pas. Mais je vois bien à quel point elle est capable de suivre ce cheminement et même de comprendre des choses parfois un petit peu compliquées, si on arrive à les imager, les expliquer simplement. Et ça montre bien à quel point les enfants sont curieux de nature, quoi. Ils adorent qu'on leur raconte ce genre d'histoire. C'est vraiment des moments privilégiés entre un grand-père et sa petite-fille. Hein.
Merci beaucoup, Bruno David. Et donc, tous nos vœux pour la suite.
Merci beaucoup.
C'était À Voix Nue, chargé de programme Daphné Abgral, prise de son Benjamin Thiot, réalisation Charlotte Roux. Une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.